bienvenue à tous. Alors, en tout cas, vraiment bienvenue aujourd'hui pour ce colloque organisé par la Fondation France-Japon, donc qui s'intitule, alors en anglais, Beyond the North-South, New Territorialities Between Africa and Asia. Nous bénéficions pour l'organisation de cette journée du soutien de la FMSH, dont le directeur scientifique est à côté de moi et que je tiens vraiment à remercier vivement pour son soutien. Nous bénéficions également du soutien de la Japan Foundation, des AM et de l'Institut des mondes africains, l'IMAF, et nous sommes très, très reconnaissants. Quelques mots avant de donner la parole à Jean-Pierre Dozon pour expliquer que l'objectif de la Fondation France-Japon, c'est de développer des collaborations entre des chercheurs japonais et des chercheurs français et européens sur des thèmes qui ne sont pas explorés habituellement dans le cadre des études, ce qu'on appelle les études japonaises ou au Japon, les études françaises. Et on a vraiment trouvé que ce thème sur donc les relations entre l'Asie et l'Afrique, donc bien au-delà, bien sûr, des relations entre l'Afrique et le Japon, pouvait constituer un thème vraiment intéressant de collaboration. Intéressant parce qu'il y a vraiment une communauté de chercheurs africanistes au Japon de très grande qualité, dont d'ailleurs certains ont été formés en France, et parce que nous avons ici des collègues africains qui ne nous ont pas attendus pour développer des relations avec le Japon. Et je crois que c'est nous, on est vraiment ravis de tous vous accueillir et d'échanger sur ces thèmes de recherche. Voilà, ça va être une journée, j'espère, excitante, longue, avec un programme très riche. Je voudrais remercier Kayamo, qui a été vraiment l'artisan de la construction de ce programme, et l'ensemble des collègues qui nous ont aidés à identifier les chercheurs idoines pour chacun des thèmes. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je donne la parole sans plus attendre à Jean-Pierre Dozon.
Merci Sébastien. À mon tour de dire que je vais parler en français. Je vais juste me permettre de faire une petite introduction à cette rencontre et mes compétences en matière de rapports entre Asie et Afrique sont limités, donc je me contenterai de quelques remarques à ma mesure. Hein. Et donc, c'est pas en tant que spécialiste que je parle vraiment. Je suis bien sûr par ailleurs anthropologue et je suis, comme on disait, on le dit moins maintenant, africaniste. Ça se dit moins. Voilà. Et donc, parce que chargé d'histoire lourde. Donc, quelques mots, donc. Alors, l'expression bien connue hein, d'Afrique convoitée hein, concerne, semble-t-il, d'abord et avant tout l'Europe hein, et la façon dont le développement du capitalisme européen, avec son cortège de conquêtes et d'installations ultramarines, cette accumulation n'a pu se faire, ou plutôt ce capitalisme n'a pu se faire sans l'Afrique, hein, sans que précisément son accumulation dite primitive à ce capitalisme, une expression marxiste, sans que cette accumulation ne s'appuie sur le commerce de produits tropicaux et de matières premières, de matières précieuses, et bien sûr sur ce redoutable trafic atlantique de millions d'Africains rasiés et asservis. Je dirais par conséquent volontiers que la modernité occidentale, celle qui démarre précisément au XVe et XVIe siècle, hein, avec la Renaissance, ne saurait se comprendre sans l'Afrique. Et je préciserai non seulement sur le plan économique que j'ai évoqué, hein, l'accumulation, mais aussi, je dirais, sur un plan moins connu, mais je dirais sur le plan des idées, idéologiques. En effet, cette modernité occidentale, c'est je dirais, auto-célébré, comme modernité, précisément, ou auto-légitimé, en se posant comme antithèse à des mondes ou des populations avec lesquelles elle était entrée en relation. Il a fallu en effet que, et je cite des auteurs, que le Hottentot, entre guillemets, fût déclaré stupide, pour que l'Européen, lui, ne le soit pas, ou plutôt qu'il lui soit infiniment supérieur. Les colonisations au XIXe siècle furent ce qu'on a appelé plus précisément la ruée vers l'Afrique, ce « scramble to Africa », comme on les a appelés. Les colonisations furent un autre grand moment de l'histoire de cette modernité occidentale, avec cette spécificité qu'en se déployant sous la forme d'une compétition extrêmement vive entre puissances européennes, spécialement entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, ces colonisations ont annoncé la grande déflagration européenne au début du XXe siècle. Et on pourrait dire de ce point de vue-là que la modernité et la violence extrême se sont conjuguées. Cependant, l'époque des colonisations européennes, sur un plan strictement temporel, ne dura pas longtemps. C'était à peine un siècle, à peine un siècle. Mais je dois tout de suite préciser que, même si elle fut extrêmement courte, ces colonisations européennes, on pourrait dire qu'elles ont été malgré tout assez efficaces, puisque aux indépendances, en 1960, eh bien, tous les États africains ont été les héritiers des découpages coloniaux opérés par l'Angleterre, la France et les autres, la Belgique, etc. Et même, ça a marqué pour l'échec de ce qu'on appelait dans les années 50-60 l'échec du panafricanisme, c'est-à-dire l'échec de ce qu'on... certains grands intellectuels et leaders africains souhaitaient, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Donc qui remettent en question les frontières tracées par les colonisations européennes. Donc, héritage de la colonisation, qui est toujours là, d'ailleurs, pour une bonne part, aujourd'hui. Toutefois, ces jeunes États africains, donc en 1960, et si beaucoup d'entre eux sont restés dans la mouvance des ex-puissances coloniales, en particulier, bien sûr, dans la mouvance de la France, pour ces ex-colonies françaises. Vous savez, il y a une expression très courante en France, très ironique, qui n'est pas pourtant une expression d'un Français, mais d'un Africain. On appelle France-Afrique. Cette expression est post-coloniale, elle n'est pas coloniale. Eh bien, ces jeunes États africains, en fait, s'ouvrirent à l'indépendance, s'ouvrirent beaucoup plus largement sur le monde. D'abord, je dirais, et ça, c'est dès les années 50, avant même leur indépendance, l'Afrique est rentrée dans la mouvance du tiers-mondisme. Il faut se rappeler qu'à la conférence de Bandung, en 1955, est apparu un vaste mouvement très puissant, dont on commence aujourd'hui enfin à faire l'histoire. Il est temps de revenir sur cette période. Bandung, en particulier en Indonésie, c'était 1955. Et puis, très vite, il y a eu des relations étroites entre l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique, qu'on a appelé la tricontinentale. Et donc, tricontinentale, c'était aussi toute une histoire, toute une période de l'histoire qui est aujourd'hui un peu oubliée. Il est temps de remettre ça à la surface. Donc, ouverture sur le monde dès les années 50. Et ensuite, je dirais que... l'Afrique s'est ouverte aussi au monde à travers la guerre froide elle-même. En effet, un certain nombre d'États africains, y compris des États africains francophones, je pense à la Guinée, je pense au Mali, puis plus tard au Bénin, au Congo, etc., tous ces pays sont rentrés en contact parce qu'ils ont eu des régimes socialistes ou marxistes-léninistes expressément, sont rentrés en contact avec l'URSS, évidemment, mais aussi avec la Chine, mais aussi avec Cuba. Et il y a d'ailleurs eu, vient de sortir un livre dont j'ai fait la préface récemment. Là.
Pas d'autopromotion.
Si. Et d'ailleurs, puisque tu le dis, je vais assister. Voilà. Non, bref. Et donc, je plaisante. Sur ça aussi, une histoire très importante, que beaucoup d'élites africaines en Afrique ont été formées, non pas chez nous, en France, mais dans les pays de l'Est. Et donc, ils ont fait leurs études à Moscou, etc. etc. Voilà, donc, histoire aussi très intéressante. Bref, je voudrais aussi dire que, par exemple, il y a ce phénomène connu, mais tout à fait remarquable, que la Tanzanie de Julius Nyerere, un homme pourtant d'origine, je veux dire, d'obédience chrétienne, a développé très tôt des relations avec la Chine. Et il a mis en résonance, son mouvement, le mouvement Ujamaa, qui était un mouvement socialiste, avec ce qui se faisait, ce qui était à l'œuvre à l'époque en Chine. Alors, j'ajoute évidemment tout de suite que la Chine et d'autres pays asiatiques, et spécialement l'Inde, n'ont pas attendu les années 60 pour les indépendances, pour développer des relations avec l'Afrique. L'Afrique du Sud avait reçu depuis de nombreuses décennies, notamment pour ses besoins en main-d'œuvre, de nombreux migrants chinois qui aujourd'hui constituent une composante importante de la population sud-africaine. De même que un certain nombre de pays d'Afrique orientale, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, etc., comptent d'assez et de longue date une population importante d'origine indienne, tout particulièrement impliquée dans les activités commerciales. Et par ailleurs, et là, ça demanderait tout un exposé dont je ne suis pas capable, mais dans une perspective aujourd'hui tracée par de nombreux chercheurs en histoire globale, il est établi que bien avant que l'Afrique, spécialement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ne soient engagées dans l'économie atlantique, avec l'accumulation primitive du capitalisme que j'ai évoqué, bien avant cette époque, la Chine, mais aussi l'Inde, mais aussi d'autres pays asiatiques, peut-être le Japon, participaient depuis plusieurs siècles à un vaste système monde afro-eurasien qui articulait, dans un sens brodélien, la Méditerranée et l'océan Indien. Et un système au sein duquel plusieurs régions d'Afrique, et l'Afrique orientale spécialement, étaient en relation commerciale, parfois d'ailleurs sur un mode d'échange inégal, avec l'Asie, où il y a échange d'ivoire, d'or, d'esclaves contre soieries, cotonnades, objets précieux, etc. De sorte que, contrairement, aujourd'hui il y a des contestations de ce qui a été écrit pendant de nombreuses décennies, y compris par les meilleurs esprits, de sorte que le capitalisme ne serait pas véritablement né en Occident, n'est-ce pas, et à travers ces villes italiennes et flamandes, que précisément il aurait pris sa source dans ce système afro-eurasien, et donc qui date de bien plus longtemps. Je fais référence à un livre aujourd'hui très connu de John Hobson sur les origines orientales de la civilisation occidentale. De même qu'on peut se référer à l'ouvrage de Jacques Goudy sur le vol de l'histoire, qui est aussi un ouvrage tout à fait intéressant. Et j'ai d'autres collègues moins connus, mais tout aussi compétents, qui ont écrit sur cette affaire. Donc il y a là, autrement dit, le fameux miracle occidental qui évoquait le miracle grec. Ce fameux miracle occidental, au fond, n'est pas aussi autoréférencé comme l'histoire officielle nous en a fait le récit. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela, mais je m'abstiendrai de le faire. En tout cas, pour reprendre mon expression initiale d'Afrique convoitée, il est manifeste que nous vivons, que le continent africain aujourd'hui vit une époque où il est convoité à nouveau frais. pourrait même dire que s'il y a eu le partage de l'Afrique en 1885, au fameux congrès de Berlin, il y a aujourd'hui, il n'y a pas un congrès, mais il y a quelque chose qui se passe qui ressemble à cela. Plus précisément, l'Afrique est aujourd'hui prise dans les mouvements, comme on sait, de la globalisation, ou plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la multipolarisation. Et si, comme je l'ai dit, l'Afrique a connu une période durant 30 ans où elle était essentiellement liée ou prise dans la rivalité entre les deux blocs, tout en étant articulée fortement aux ex-puissances coloniales, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il faut savoir, et c'est connu, les chiffres sont là, que la Chine est devenue le deuxième partenaire après l'Europe. Du commerce avec l'Afrique. Donc, et en pays, elle est la première. Donc, en termes de pays, là, je compare avec l'Europe. Donc, je dirais plus particulièrement que compte tenu tout particulièrement de ses réserves minérales, elle possède le tiers des réserves mondiales, aussi bien en manganèse, en chrome, en cuivre, en or, en uranium, en plutonium, en vanadium, etc. Et bien sûr, les ressources du pétrole et puis les ressources foncières, très importantes. Compte tenu de tout cela, l'Afrique est un enjeu de compétition très fort entre toute une série de pays, l'Europe, les États-Unis, la France particulièrement, mais les Émirats arabes, mais la Turquie, mais la Russie, mais la plupart des pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et évidemment l'Inde. Donc ça fait beaucoup de monde, sans compter le Brésil, etc. Alors, je n'irai pas plus loin sur ces affaires de géopolitique et d'ordre économique, mais je voudrais maintenant, je terminerai par là, ajouter quelques points qui concernent plus particulièrement quelque chose que je connais un peu mieux que le reste, c'est sur la Chine. Et la Chine ayant, et comme je l'ai dit, étant le principal aujourd'hui interlocuteur asiatique de l'Afrique, il se trouve que récemment, je me suis occupé d'un projet collectif sur les relations culturelles de l'Afrique avec la Chine. Donc je dirai quelques mots à ce sujet. Je dirais que l'accélération de la présence chinoise en Afrique est contemporaine du développement en Afrique d'un certain anti-occidentalisme, qui est, je dirais, assez récent, bien qu'il y ait eu des luttes pour la décolonisation. Mais on n'était pas anti-occidental pour autant à cette époque-là. Voilà. Aujourd'hui, par contre, se développe un anti-occidentalisme assez fort. Je dirais qu'il remonte à peu près aux années 90, à une époque très particulière. C'est la fin de la guerre froide, précisément. C'est aussi la mise en cause des États africains dans leur fonctionnement, etc. Et là, il y a toute une série de crises qui interviennent en Afrique. Et donc, il y a là toute une série de, je dirais, de vis-à-vis de l'Europe, de l'Occident, une sorte de déception, de lassitude, de toute une série de manifestations d'hostilité qui étaient à fleur de peau presque, qui se sont. Alors bien sûr, ces manifestations pouvaient aussi revenir de plus lointaines affaires. Et par contre, par exemple, la remontée des questions sur l'esclavage, par exemple, est revenue à ce moment-là, très fortement, précisément. Donc tout ça s'est mélangé. Et puis les diasporas africaines, de plus en plus nombreuses aussi, ont eu leur mot à dire dans cette histoire. Et donc il y a eu des mouvements très forts. Donc, la présence chinoise est contemporaine de cela. Et je dirais que c'est à ce moment-là qu'un certain discours chinois sur l'Afrique a eu une certaine réception. Par exemple, sur l'ancienneté des relations chinoises par rapport à l'Europe, où la Chine pouvait être plus anciennement présente en Afrique que l'Europe elle-même. Donc on faisait remonter les contacts ou les relations à l'époque, au Xe siècle, au VIIIe siècle, et même parfois avant. Et puis un discours chinois qui est très connu, qui est « nous ne faisons pas comme les Occidentaux ont fait vis-à-vis de vous, on fait du win-win, on fait du gagnant-gagnant ». Et donc c'est un discours, ne dis pas que ce sont les faits, mais c'est un discours. Et donc le discours officiel, on trouve ça, on entend ça chez les diplomates chinois comme dans les textes officiels, nous faisons du commerce. Et donc on ne fait pas des choses comme on fait les Occidentaux, et c'était toujours de l'échange plus qu'inégal. Donc ça, point. Et donc réception intéressante de cela en Afrique. Et puis le développement en Afrique par la Chine d'un soft power, diplomatie culturelle, on pourrait dire aussi bien, qui se manifeste de plus en plus sous la forme des instituts Confucius, hein, qui s'installent de plus en plus fortement dans les pays africains. L'apprentissage du mandarin, qui est de plus en plus fréquent, avec distribution de bourses, et de plus en plus donc d'étudiants africains en Chine. Et puis, tout est des éléments plus subtils, mais très intéressants à étudier, sur la culture chinoise et la culture africaine, autant qu'on peut en parler de la culture africaine comme cela. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose de très intéressant sur les arts martiaux et l'initiation en Afrique. Hein, voilà, l'initiation comme forme, disons, ancienne et traditionnelle de l'apprentissage. Et donc, il y a quelque chose là qui fonctionne, en quelque sorte. Et puis aussi la médecine chinoise, hein, qui aussi est intervenue et qui aujourd'hui est quand même très installée, et la pharmacopée chinoise très installée en Afrique, et qui donne lieu aussi à des appropriations en Afrique même par des tradis thérapeutes africains. Donc des phénomènes très très intéressants. Puis un autre, je terminerai par là, qui moi m'intéresse encore plus, c'est-à-dire que ça hésite entre le soft ou le hard power, c'est-à-dire que aujourd'hui, la Chine en particulier contribue à la restauration, voire à l'instauration des pouvoirs d'État africains. Moi, ce qui me frappe dans pas mal de capitales africaines, c'est que les Chinois financent les palais présidentiels, oh, n'est-ce pas, les palais du peuple ou les parlements, enfin tout ce qui représente l'État en quelque sorte. Et donc il faut voir ce que ça donne. Je veux dire, ça donne pas des, ça donne des grandes choses. Ça, c'est pas des petites choses. Voyez. Et puis des théâtres nationaux. Si vous allez à Dakar, vous avez un théâtre national financé par les Chinois, à côté le théâtre financé par les Français en années 60 et Rikiki, n'est-ce pas ? Voilà, donc on est quand même devant quelque chose de très intéressant. Et donc, du coup, aménagement urbain aussi, donc des infrastructures très importantes. Donc je trouve que là, il y a une sorte, au-delà du côté économique, infrastructurel, il y a une sorte de modèle politique chinois qui se met là, à travers cette affaire-là, n'est-ce pas ? Qui se met dans du matériel. Hein. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de tout à fait intéressant à souligner. Et moi, sur lequel, d'ailleurs, je me suis un peu penché personnellement. Voilà. Donc, vous voyez, je me limite à la Chine. Mais la Chine est un acteur important. Il n'est pas temps que d'autres acteurs asiatiques, aujourd'hui, interviennent en Afrique. Et le Japon, bien évidemment, mais aussi l'Inde, mais aussi la Corée du Sud, que je ne suis pas sûr qu'ils aient une capacité de soft power comme la Chine, mais en tout cas, sur le plan économique, ils sont très présents aussi. Et donc, il y a là, en tout cas pour moi, une redistribution des cartes, incontestablement aujourd'hui en Afrique, à travers l'intervention en particulier des pays asiatiques en Afrique. Voilà.
Merci beaucoup.